On va donc aborder cette troisième séance consacrée aux sculptures antiques. Et après avoir un peu ramé la semaine dernière sur notre Vénus de Milo et ses copines, et ses copains, vous rappelez, ça a été séance un peu. Hein. D'ailleurs, on y reviendra parce que j'ai pas dit mon dernier mot, hein, mais vous avez révisé vos classiques depuis. Alors, je ne vous rappelle pas, mais je vous les rappelle quand même. Donc, toute règle que vous connaissez tous, que vous avez sur votre table de nuit et que vous apprenez par cœur tous les soirs, hein, je ne les recommande pas. Vous les connaissez. Et je souhaitais en fait aujourd'hui que la séance s'établisse autour d'un monument qui est, je crois, très très emblématique de la culture autour de laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Vous savez que la première séance, nous avons travaillé sur l'Arapacis Augustae, et nous avons vu à quel point ce monument était un monument très, très important pour rentrer dans l'art de la sculpture à Rome et dans l'Empire romain. Alors, toute la sculpture ne se résume pas pour l'Empire romain au seul Arapacis Augustae, mais quand même, on est là devant une œuvre absolument emblématique et qui permet, si on la comprend bien, d'aborder la totalité de cette question. Et aujourd'hui, ça va être pareil. Je vais en effet vous présenter un monument sur lequel nous allons travailler, qui est lui-même extrêmement emblématique de la culture autour de laquelle nous allons œuvrer aujourd'hui. Je vais vous présenter le monument, mais c'est bien sûr les sculptures qui décorent ce monument que nous allons œuvrer. Ce monument, c'est le suivant. Tout le monde connaît, alors c'est quoi?
L'acropole d'Athènes.
Oui, mais c'est quoi précisément sur l'acropole?
Le Parthénon.
Le Parthénon. Hein. Donc ça, c'est le Parthénon, parce que l'acropole, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est le Parthénon sur l'acropole d'Athènes. Bien. C'est donc de ce monument que nous allons parler aujourd'hui, et plutôt, plus exactement, des sculptures qui le décorent. Voilà une vue générale de l'Acropole avec le Parthénon. Peut-être avant d'aller plus loin, je vous reprécise deux, trois petites choses sur le Parthénon. Des questions historiques pour que ça se soit bien, bien clair et qu'après on puisse évoquer le décor sculpté du Parthénon en ayant ce background historique en tête. Vous savez que le Parthénon a été construit dans la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vous rappelle en deux mots d'ailleurs les raisons qui ont permis la construction du Parthénon. Vous savez qu'au début du 5e siècle, il y a de gros problèmes en Grèce parce que les Perses menacent les cités grecques. Elles vont d'ailleurs tellement menacer les cités grecques qu'en 480, donc au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Perses envahissent l'Attique et Athènes et vont d'ailleurs détruire les anciens temples qui se trouvaient sur l'Acropole. Bref, en 480, Athènes est donc pillée par les Perses. Ce qui veut dire que vers le milieu du 5e siècle, l'homme fort d'Athènes, qui n'est d'autre, j'ai peut-être d'ailleurs mis ici son buste, qui n'est d'autre que Périclès, vous le reconnaissez, on en a parlé la dernière fois, l'homme fort d'Athènes, Périclès, va réussir un coup de force. En effet, face à cette menace des Perses, qui ont débarqué en Grèce au début du 5e siècle, mais dont la menace est toujours bien vivante, hein, les Grecs, les cités grecques, vont décider de se fédérer autour d'une ligue qu'on appelle la Ligue de Délos. Et le but de cette Ligue de Délos était de réunir des moyens pour lutter contre les Perses. En particulier, de réunir des moyens pour construire une flotte capable de lutter contre les Perses. Hein. Et comme son nom l'indique, cette Ligue de Délos était à Délos. Hein. Autrement dit, c'est à Délos que se trouvait le trésor de la Ligue, l'argent que les différentes cités grecques, hein, vous savez que la Grèce était divisée en cités, eh bien l'argent que les différentes cités grecques donnaient à la ligue de Délos se trouvait à Délos, et le but était encore une fois de financer la réalisation notamment de navires. Ça dit, vers le milieu du 5e siècle, Périclès va avoir une idée, arguant du fait que l'île de Délos n'est pas le lieu le plus sûr et qu'il y a des pirates, n'est-ce pas, dans la mer Égée. Il va décider de faire déménager le trésor de la Ligue de Délos à Athènes. Et une fois que le trésor de la Ligue de Délos va être implanté à Athènes, il va utiliser l'argent de la Ligue de Délos, non pas du tout seulement pour faire des bateaux, mais pour construire l'Acropole et notamment le Parthénon. C'est ce qu'on appelle du détournement de fonds. C'est une chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui, n'ayez crainte. Hein. Ça, c'est les barbares grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est civilisés, ça n'existe plus du tout. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, cette question de la construction du Parthénon et de beaucoup de monuments de l'Acropole avait pour but, évidemment, de donner à Athènes une sorte d'hégémonie culturelle et puis de donner du pain aux populations d'Athènes, hein, parce qu'évidemment, il fallait des gens pour construire tout ça. Donc, il y avait là une double idée de la part de Périclès, donner une sorte d'hégémonie politique, culturelle à Athènes, et en plus, de donner à la population athénienne du travail. Hein. Donc, voilà, si vous voulez, le contexte général qui est celui de la construction de ce monument, qui est le Parthénon. Je vous rappelle que l'Acropole, ça n'est pas que le Parthénon. Hein. On ne va pas regarder tous les plans, en détail, le plan d'Acropole, mais je vous rappelle que l'Acropole, c'est tout ça. Le nord est là, le sud est là, bien sûr. Ce qui nous intéressera, c'est vraiment le Parthénon qui est là, hein, vous le reconnaissez. Et vous savez que sur l'Acropole, il y a quelques monuments très, très importants au-delà du Parthénon, qui sont les propylées, qui sont en fait l'entrée hein, de l'Acropole, qui sont ce petit temple qu'on appelle le temple d'Athéna Nike, Athéna victorieuse, l'Erecteion, qui est ici, le temple d'Erectée, qui est une sorte de fondateur mythique d'Athènes, et puis donc le Parthénon. Alors il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais enfin, ce sont ça peut-être les monuments essentiels que l'on trouve sur ce lieu. Le Parthénon lui-même a été précisément élevé en 15 ans. Hein. Il n'a pas fallu des milliers d'années hein, pour le construire. 15 ans, ça a été une construction vraiment rapide. La construction a commencé en 447, si ma mémoire est bonne, et s'est terminée en 432, donc 15 ans. Ça a été rapide. Ce qui est d'autant plus remarquable que c'est un temple énorme. Hein. C'est le grand temple du monde grec, hein. Avec 8 colonnes en façade, 18 sur chacun des longs côtés. C'est énorme. On sait que l'ordonnanceur général du Parthénon, on en a parlé la dernière fois, c'est l'artiste hein, qui a travaillé autour. C'est Phidias. Hein. Phidias était sculpteur. Hein, on en a parlé la dernière fois, notamment quand on a parlé de quoi d'ailleurs. On a parlé à cette occasion-là. On a surtout parlé, je crois, à l'occasion d'une chose un peu particulière. Non. Non. D'Athéna peut-être, mais surtout on a parlé à propos d'un concours.
Ah oui, le concours des fesses.
Vous vous rappelez du concours d'Éphèse, hein, le concours de l'Amazone blessée, où trois sculpteurs avec concouille, dont Phidias. Hein, voilà. Donc Phidias, c'est un sculpteur, c'était quelqu'un qui était très proche de Périclès, il était un peu plus que sculpteur, il était un peu souvent, on fait cette comparaison, mais il était un peu comme Lebrun était, il était peintre, vous savez, Lebrun au XVIIe siècle à Versailles, il était très proche de Louis XIV, Lebrun est un peu celui qui a organisé tout Versailles, même s'il était spécialement peintre, ben Phidias, c'est un peu la même chose pour Périclès. Il est sculpteur, mais c'est vraiment lui qui va, je dirais, travailler la conception d'ensemble du Parthénon et même plus ou moins de l'Acropole. Mais il est avant tout sculpteur, mais encore une fois, il est un peu le conseiller artistique, si vous voulez, de Périclès. Par contre, l'architecte vraiment du Parthénon, c'est un homme qui s'appelle Ictinos. Ictinos, c'est l'architecte du Parthénon, et qui a travaillé avec un de ses collaborateurs qui s'appelle Callicratès, qui a été le deuxième architecte du Parthénon. Hein. Donc voilà l'équipe qui travaille autour de la réalisation du Parthénon. Le Parthénon est un monument qui est dédié à la déesse tutélaire d'Athènes, qui est Athéna. Hein. Donc c'est le temple d'Athéna. Ce Parthénon, Athéna Parthénos, précisément, qui veut dire
jeune fille.
Jeune fille, hein. Athéna, jeune fille. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, maintenant que je vous ai rappelé à grands traits hein, les éléments essentiels concernant l'histoire du Parthénon, ce qui nous intéressait, c'est le décor sculpté du Parthénon. Parce que le Parthénon, c'est le grand temple grec, c'est le modèle, c'est ce dont beaucoup de monuments postérieurs vont s'inspirer, mais c'est également le fruit de ce qui s'est passé avant. Il est vraiment le Parthénon, l'élément un peu nodal, si vous voulez, qui, au niveau de son architecture et de sa sculpture, permet vraiment de lire la sculpture ornementale et architecturale de la Grèce antique. C'est donc un monument incontournable. Et il y a trois éléments essentiels qui composent la sculpture du Parthénon. Je vous montre là un écorché d'un des petits côtés du Parthénon. Vous retrouvez là le plan. D'accord ? Eh bien, l'écorché que vous voyez là est l'écorché de la façade ouest. Soit dit, de la façade est, c'est pareil. C'est l'écorché d'un des petits côtés, si vous voulez. D'accord ? Et vous remarquez sur cet écorché qu'il y a en fait trois endroits essentiels où il y a des décors sculptés. Il y a d'abord les frontons, d'accord ? Hein ? Deux frontons, un à l'ouest et l'autre à l'est, d'accord ? Il y a ensuite ce qu'on appelle la frise. La frise, elle est là. Hein ? Elle est autrement dit au-dessus des colonnades, de la deuxième colonnade des deux extrémités, mais cette frise, elle passe également de part et d'autre de ce qu'on appelle la cella, qui est cette partie centrale du temple, d'accord ? Donc la frise, elle fait ce tour-là, ok ? Et puis le troisième élément du décor sculpté, enfin, c'est ce que l'on appelle les métopes. Alors, je vous ai mis là un détail, cette fois par photographie de cette élévation. Les métopes, c'est ça. C'est ce qu'il y a sur cette frise extérieure. Il y a en alternance ce qu'on appelle des triglyphes, hein, c'est-à-dire des plaques qui sont, j'allais dire, découpées en trois, triglyphes. Voilà. Et puis, il y a entre des plaques sculptées qu'on appelle des métopes. Hein. Donc, sur la frise, il y a des triglyphes et des métopes. Et les métopes sont sculptés. C'est le troisième champ, si j'ose dire, où s'étale le décor sculpté du Parthénon. D'accord ? Alors, on va regarder ces trois domaines-là. Métopes, frise, fronton. Et voir ce que l'on peut dire là-dessus. C'est clair pour vous ? C'est bon ? On y va ? Bien. Alors, les méthodes. Première chose. Le Parthénon, il est axé ouest-est. Hein, d'accord ? On va regarder d'abord les méthodes du côté sud. Parce que nous le verrons, hein, du côté nord, est et ouest, les métopes ont une iconographie différente. Donc on va regarder les méthodes du côté sud, c'est ce que j'ai surligné en rouge. Ok ? Vous repérez ? Vous allez voir que ces repères ne sont pas inutiles à bien avoir en tête. Hein ? Bien. Alors je vais vous montrer quelques-uns de ces métopes du côté sud. On va déjà les regarder. Et après on en discute. Montre. Alors, que représentent ces métopes du côté sud ? Combat des centaures et des lapites. Bon, alors, il faut m'expliquer ce que sont les centaures et les lapites, parce que moi, ça ne me dit rien. Alors, les centaures, d'abord, c'est quoi ? Un animal monstrueux qui est monstrueux pourquoi ? Voilà. C'est ça, mi-homme, mi-cheval, il a le buste d'un homme, ou d'une femme, hein, enfin d'un être humain, parce qu'il y a des centaures aussi, hein, et il a la partie inférieure qui est celle d'un cheval. Bien. Donc ça, c'est pour les centaures. Les centaures. Les lapites, maintenant.
Bah, une peuplade.
Une peuplade. Et vous m'avez dit que ça représentait des combats de centaures. On sait ce que c'est, de lapides. Donc maintenant, on sait que les lapides sont une peuplade. Mais pourquoi est-ce qu'ils se tapent dessus ? Parce qu'effectivement, on voit là qu'il y a un combat entre les uns et les autres. Hein.
Ils ne voulaient pas enlever les femmes ?
Ah, oui, c'est pas une question d'enlèvement.
Avec une question d'enlèvement ?
Ils ne voulaient pas enlever les femmes ? Là, il y a des femmes.
Qu'est-ce que vous voyez sur les métopes, effectivement ?
Ben là, on voit un homme.
Donc là, là, qu'est-ce qu'on voit déjà sur ce métope-là ?
Un bel homme.
Un bel homme, oui.
Qui essaie de frapper un lapin.
Qui essaie de frapper un centaure, ok. Là.
Ah, là, il y a des gifles. C'est quoi ça ? C'est la peau du lion.
Ben, c'est une peau de lion, en tout cas.
Ben, là, il y a un lapide à terre.
Donc, il y a un lapide à terre qui vient d'être vaincu par le centaure qui est au-dessus. On est d'accord ?
Oui.
Une femme.
Ah ben donc, c'est la pite.
Là, c'est une dame. Hein.
Autrement.
Il essaye de l'enlever.
Voilà. Donc là, on a effectivement un centaure qui s'en prend à une dame Et c'est qui cette dame ? Lapide. Donc il y a une lapide. Et là, oui, un espèce de corps à corps, à nouveau entre un centaure et un lapide. Bien. Alors, est-ce que ça nous en dit plus sur cet épisode du combat des centaures et des lapides ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'ils se battent ? Vous disiez, il y a peut-être une histoire d'enlèvement.
Ils voulaient enlever les femmes.
Ils voulaient enlever les femmes. Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient... D'abord, qui voulait enlever les femmes de qui ?
Les centaures,
parce que encore une fois, il y a des centaures, hein, il n'y a pas que des centaures. Les centaures, c'est pas que des garçons, hein, il y a des garçons et des filles. Hein. Donc là, ce serait quoi ? Les centaures mâles qui veulent enlever qui ?
Les femmes
lapides. Bien. Mais pourquoi ?
Pour changer.
C'est vrai que ça change un peu.
C'est
vrai que ça change.
Pour un dieu,
c'est un petit peu différent. C'est marrant.
Pour un dieu,
pour changer.
On donne notre langue au chat.
Vous donnez votre langue au chat. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le roi des lapides, qui s'appelait Pirithous, va épouser... Bah, celle qui va devenir son épouse, dont le nom m'échappe à l'instant. Mais il se trouve que les lapides étaient, pour des raisons familiales, liés aux centaures. On dirait pas comme ça, parce que physiquement, ils ne se ressemblent pas. Hein. Mais quand même, les centaures et les lapides étaient, c'est le texte de la mythologie qui nous dit ça, hein. Moi, je n'y suis pour rien, hein. Étaient liés familialement. Donc, évidemment, on a invité les centaures à la noce de Pirithous. Le problème, c'est que les centaures ont un grand défaut, c'est que dès qu'ils boivent un peu, ça se passe pas bien. Ils ont le vin un peu triste et excité. Hein. Ce qui fait qu'au cours du repas, buvant et buvant et buvant encore, ils ont effectivement voulu s'en prendre aux femmes lapites, les abuser jusqu'à la femme de Pirithous. C'était quand même un peu gros. Hein. Et effectivement, les enlever. Alors les lapites n'ont pas été d'accord, d'où un combat entre les centaures et les lapites. Et d'ailleurs, c'est les lapites qui ont eu le dessus. Voilà donc cette histoire du combat des centaures et des lapides. Donc effectivement, ces trois métopes que je vous ai montrées là, mais trois parmi bien davantage, hein, des métopes en tout, je vais vous le dire, hein, il y en a, je ne me rappelle jamais du nombre, je crois que c'est 92. Oui, en tout, il y a 92 métopes hein, autour du Parthénon. C'est-à-dire que sur chacun des longs côtés, il y en a 32. Là, je vous ai montré quatre métopes représentant le combat des centaures et des lapides. Mais il faut que vous imaginiez, n'est-ce pas, que tous les métopes de la partie sud, du côté sud, étaient donc ornés de thèmes similaires. D'accord hein. Donc il y a 32 métopes qui figuraient le combat des centaures et des lapides. Vous en avez vu 4. OK. Que voilà. C'est bon. On passe à un autre côté. Alors on va regarder du côté ouest cette fois. Hein. Alors je vous préviens tout de suite. Autant les métopes du côté sud sont encore très bien conservées, autant les métopes de l'ouest, de l'est et du nord sont très très abîmées. Vous savez, le Parthénon, il a connu des tas de problèmes. Hein. De toute façon, le temple a été converti en mosquée. Mais avant ça, les Vénitiens, quand ils ont été les maîtres d'Athènes, ont fait plus ou moins exploser le temple. Il y a eu un incendie. Enfin, ce pauvre Parthénon, il a eu tous les problèmes possibles. Ce qui veut dire que les sculptures du Parthénon, ça a été un peu compliqué. Donc les métopes, qui en plus sont les éléments les plus à l'extérieur, hein, parce que la frise qu'on a vue tout à l'heure, la frise intérieure, bah, elle était sous la galerie, si vous voulez. Alors que les métopes étaient à l'extérieur. Ce qui fait que souvent, ils sont très abîmés. Donc là, pour les métopes de l'ouest, de l'est et du nord, on ne va pas s'amuser. On est des historiens de l'art, on est habitués à avoir des œuvres qui ne sont pas toujours en parfait état. Hein. Et notre but, ce n'est pas de dire « Ah, oh, c'est en mauvais état », c'est de trouver ce que ça représentait. Alors regardons ces métopes. Je vous en montre que deux qui sont les moins mal conservés.
Est-ce que ce sont toujours des originaux sur...
sont toujours... Alors, sur le Parthénon lui-même, il n'y a plus d'originaux.
Oui,
ce que vous voyez là sont donc les originaux qui sont maintenant visibles. En tout cas, pour cela, parce que vous savez que beaucoup des sculptures de Parthénon sont au British Museum à Londres. Hein. On n'est pas sans savoir qu'au début du XIXe siècle, un Lord Elgin a acheté... Hein. beaucoup de ces éléments-là, hein, mais il restait sur le Parthénon un certain nombre de ces éléments, pas toujours les mieux conservés, loin de là, mais maintenant tout ce qui était sur le Parthénon a été enlevé, d'autant que la pollution urbaine à Athènes est telle qu'il était grand temps de le faire, hein, et beaucoup de ces éléments sont restés trop longtemps dehors et sont beaucoup abîmés. Alors qu'est-ce que ça représente, ça et ça? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Il y a un bouclier.
Alors on voit effectivement un bouclier, vous le voyez? Un guerrier. Donc, on aurait à gauche un guerrier.
Ou une guerrière. On ne voit pas trop, là.
On ne voit pas trop. Et à droite?
Un personnage.
Et qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnages, a priori? Ils se battent, un combat. Donc, a priori, on aurait là un combat entre deux combattants. Pas sûr.
C'est pas
une chevelure. À droite, une chevelure. À gauche, une femme peut-être.
On sait pas. On dirait qu'elle a une poitrine et un sexe.
Donc peut-être une femme. Et là, un cavalier. Ou une cavalière.
Une Amazone alors.
Ah, une Amazone. Une Amazone.
Des
Amazones. Donc on aurait là des métopes qui représenteraient des Amazones. Les Amazones, c'est qui? Des guerrières. Hein. Donc ce sont des guerriers, mais femmes. Hein. Et... je sais pas, qu'est-ce qui se passe entre les Grecs et les Amazones? Oui, les Amazones habitent quelque part en Asie mineure. Et alors, ça se passe comment? Oui. Ah oui, chez les Amazones, il ne faut pas être un garçon. D'ailleurs, on en a parlé la dernière fois, justement. Hein, quand on a évoqué le concours d'Éphèse, hein, pour les Amazones blessées, vous rappelez, on a évoqué que les Amazones allaient même jusqu'à se couper un sein pour pouvoir tirer à l'arc. Hein. Voilà, donc les Amazones, ce n'est pas des rigolotes. Hein, elles y vont carrément. Hein. Donc ce sont des guerrières, effectivement, farouches. Hein. Elles se battent vraiment de manière dure. Hein. Et effectivement, avec les Grecs, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Mythologiquement parlant, les Amazones ne sont a priori pas du tout un peuple qui a existé, pas plus que les Lapites. Hein. Mais, voilà, dans l'imaginaire mythologique grec, il y a fort ce combat entre les Grecs et les Amazones. Ben, écoutez, vous avez bien trouvé, il s'agit effectivement d'Amazones, hein, sur ces métopes à l'ouest du Parthénon. Je vous ai montré, encore une fois, ces deux-là, les autres sont extrêmement abîmés. En tout cas, on a bien là des scènes figurant des combats entre des Amazones et les Grecs.
Mais ça okay. avait été décrit déjà par les Grecs.
Absolument.
On savait ça.
Absolument. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que les Grecs comme les Romains ont beaucoup décrit les sculptures du Parthénon. C'est aussi grâce à ça qu'on sait ce que ça représente. Autrement, on n'aurait que ça, ce serait parfois un peu difficile. Encore que, vous l'avez vous-même trouvé, hein, vous avez vu qu'il y avait peut-être du féminin là-dedans. Hein. Donc, la preuve, en regardant, quelquefois, on peut quand même approcher une vérité. Mais heureusement, les textes antiques nous permettaient de le savoir. Alors, on va regarder maintenant les métopes du côté est, c'est-à-dire le côté opposé à celui qu'on vient de voir. Là aussi, c'est très abîmé. On va voir ce que l'on peut voir. Pareil, je vous en montre deux, parce que, donc là vous voyez quoi? Ah oui, c'est confus et surtout très abîmé. Hein. Il était temps de les rentrer. Hein. Alors qu'est-ce qu'on voit? Oui, à gauche on voit quoi? Oh, on voit quelque chose là quand même. Un rond. Ce rond, ce serait quoi?
Un bouclier.
Un bouclier. Hein. C'est un bouclier. Et s'il y a un bouclier...
Il y a un combattant derrière.
Ça, c'est quoi, ça?
Un homme.
Oui, un personnage. Moi, oui, il se trouve que c'est un homme, effectivement. Et alors cet homme, qu'est-ce qui se passe là?
Il est en train de tomber.
Il est en train de tomber. Hein. Il est en train de tomber. Vous voyez que là, visiblement, il est à terre. D'ailleurs, il y a quand même un élément qu'on voit. Ça a beau être très abîmé.
Sa main.
Voilà. Je ne sais pas si c'est sa main. Ça, c'est quoi?
Au-dessus.
Au-dessus, vous voyez une main? Ah, ça! C'est ça, vous voyez, oui, comme main? Je ne suis pas sûr que ce soit. Ah, peut-être. Peut-être qu'il est comme ça, c'est possible. C'est possible, effectivement. En tout cas, on a ici. C'est pas possible que ce soit la main, vous avez peut-être raison. Hein. En tout cas, c'est le bras, ça, effectivement. Hein. Et peut-être, effectivement, la main au bout, c'est bien possible. En tout cas, il est en train de tomber, n'est-ce pas? Il tient encore son bouclier, mais il est en train de tomber. Hein. On devine là son genou, les pieds à terre, l'autre genou, etc. Donc voilà, un guerrier qui tombe à terre avec son bouclier. Hein. Donc ça, c'est ce qui se passe à gauche. Là, au centre, il se passe quoi?
Franchement.
Bah, il tombe pas tout seul, à mon avis.
Il y a quelqu'un qui tombe face de lui.
Voilà. C'est-à-dire que si lui, il est en train de tomber à terre, c'est évidemment qu'il y a quelqu'un devant lui qui est en train de le faire tomber à terre. Parce qu'un gars avec un bouclier ne va pas tomber tout seul, vous voyez. Hein. Donc ça veut dire que devant, ça a toute chance d'être un guerrier, hein, qui fait tomber celui-là à terre. D'accord?
Et derrière,
il y a encore autre chose. Difficile. Hein. Très difficile. Je peux peut-être vous montrer un dessin qui a été réalisé et qui nous permet de mieux comprendre ce que représente ce relief-là. Un dessin qui a été réalisé parce que certains de ces métopes ont pu être dessinés au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avant qu'ils ne soient autant abîmés, si vous voulez. Hein. Donc, je vais vous montrer là un dessin de ce métope réalisé d'après des dessins faits au XIXe siècle. Alors, vous reconnaissez, je crois que vous avez raison pour la main.
Ah ben oui.
Hein, vous reconnaissez en tout cas le soldat, hein, le guerrier, avec son grand bouclier, son bras, la main que vous aviez bien vue, que moi je n'avais pas vue, donc bravo. Voilà. Devant, il y a notre chose infante que vous avez vue tout à l'heure, qui est donc, vous pensez?
Ah ben, c'est Athéna.
Athéna, hein. Oui, bon, de toute façon, c'est une femme guerrière, avec un casque.
Voilà, hein.
Elle a l'égide, hein, vous reconnaissez notamment les. Vous voyez, on voit même les serpents ici. Hein. L'égide devait être quelque part par là. Parfait. Et puis derrière, un ange. Alors, dans la mythologie gréco-romaine, on parle plutôt d'autre chose que d'un ange. C'est vrai que c'était un personnage aîné, hein. Mais ange, c'est plus, j'allais dire, dans la mythologie chrétienne.
C'est la victoire.
Alors, c'est une victoire, effectivement. Hein. Les personnages ailés, dans la mythologie gréco-romaine, ce sont des victoires. Quel est le nom grec?
Niké.
Niké. Hein. Vous savez, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, hein. Si les chaussures de bien sportives, bien connues que vous connaissez, Nike, s'appellent Nike, ça vient de Nike. Donc on dit Nike parce qu'on ne sait pas. Mais en fait, ça vient du mot Nike, qui veut dire victoire. Hein. C'est pour ça que ces chaussures s'appellent Nike. Hein. On prononce Nike, mais on devrait prononcer Nike. Seulement, puisqu'on est américanisé jusqu'à la moelle, on ne peut pas imaginer que les Grecs aient inventé quoi que ce soit. Ah ben si, les Grecs ont inventé quelque chose, notamment le concept de la victoire, de la Nike. Eh bien là, ce que vous avez, c'est une Nike. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette Nike?
Elle a une couronne.
Deux couronnes. Même. Hein. Et pourquoi? Voilà, pour célébrer la victoire de qui?
D'Athéna.
Hein. La victoire d'Athéna. Alors vous voyez, quand on met... donc voilà les deux reliefs en question. Hein. Vous reconnaissez celui de gauche. Donc ce que vous avez là... Oh pardon, je suis allé trop vite. Voilà, ce que vous avez, voilà. ce que vous avez là, hein, c'est donc bien, vous reconnaissez, je pense, hein, ce métope avec au centre Athéna, derrière Niké, enfin ce qu'il en reste, et devant le géant, le personnage qui est en train de tomber. Hein. Alors cette scène. Elle est tirée de quoi? Cette scène figurant Athéna en train de soumettre un guerrier, le métope que je vous ai montré subrepticement là, en me trompant de sens, voilà, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, représente à nouveau un combat. Hein.
Ouais.
Vous voyez à peu près, hein, il y a ici un combattant, puis ici un autre. Et visiblement, celui-là, c'est le même schéma de précédemment, hein, est en train d'être vaincu par celui-là. D'accord ? Hein ? Bien. Alors, à votre avis, ces métopes-là évoquent quoi ? Je montre ici le dessin.
C'est quand même pas la fondation.
La fondation ? La fondation de...
d'Athènes ?
On ne voit pas trop... Non, enfin, je ne sais pas.
Non, non.
Contre les Perses. Les victoires d'Athènes contre les Perses. Donc ce serait Athéna qui vainc les Perses, quoi. Qui aide les Grecs à vaincre les Perses. Ouais. C'est une idée, ça. Donc on part sur l'idée soit de la fondation. Hein. C'est vrai que, bon, on est dans le temple d'Athéna, donc on peut comprendre ça. Soit une représentation des Grecs et des Athéniens en train de vaincre les Perses. Et donc Athéna, qui est la chef des Athéniens, en quelque sorte, hein, est là qui vainc un Perse. C'est peut-être ça l'idée. Hein.
Non, il n'a pas un casque de Perse.
Bah, pas trop, effectivement. Oui, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas vraiment, vraiment un faciès persique, hein, ni même oriental.
Spartiate, hein.
Ah, on pourrait penser à un Spartiate. C'est-à-dire que Athènes et Sparte, ça ne s'est pas toujours bien passé. Hein. Au moment de la Ligue de Délos, plus ou moins, parce que tout le monde, tous les Grecs étaient contre les Perses. Enfin, dès la fin du 5e siècle, ça a recommencé, les problèmes entre Sparte et Athènes. Hein. Alors, ce serait donc pas un épisode de la fondation d'Athènes. Ce serait pas non plus la guerre des Perses et des Grecs, parce que ce personnage vaincu par la maîtresse de la cité d'Athènes n'a pas l'air très perse.
Est-ce que c'est un autre dieu ?
Est-ce que c'est un autre dieu ? Donc, on aurait un combat
avec
entre des dieux.
Le début de l'Iliade.
Un combat entre les dieux, ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Oui. Alors c'est quoi ?
C'est les dieux rationnels.
Ou ça peut être
pas sur
Arès.
Les dieux archaïques qui étaient sans raison.
Oui, mais il n'est pas archaïque.
Bah, il n'est pas représenté en archaïque.
Non.
Quelqu'un a une... Donc on part sur cette idée de combat entre les dieux, les vieux dieux. Qui combattent les nouveaux dieux, hein, on pourrait dire quelque chose comme ça peut-être, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres idées ou non? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans la mythologie gréco-romaine, on nous dit qu'au tout début du début du début, il y a eu un combat entre les dieux et ceux qu'on appelle les géants. Les géants sont en fait effectivement des dieux anciens, et les nouveaux dieux, parrainés, patronnés par le principal d'entre eux, qui s'appelle Zeus, hein, vont donc prendre le pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les vieux dieux, les vieux géants, n'est-ce pas, archaïques, comme vous disiez tout à l'heure, hein, ont été renversés par les nouveaux dieux, dont Zeus est le leader, en quelque sorte. Hein. Donc effectivement, les métopes que vous voyez là, sont des métopes qui évoquent la lutte des dieux contre les géants. Alors, par exemple, ça, hein, c'est donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, Athéna qui lutte contre un géant, et là, alors c'est une lutte, c'est un peu plus compliqué, je crois qu'on a, je ne sais pas si je l'ai mis sur une diapositive après, oui, alors là, on sait que c'est précisément Athéna et Nike qui combattent un géant. C'est pas le cas, parce que tous les géants ont des dons. Hein. Mais enfin, quelquefois, d'une version à l'autre, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est un géant. En mettant les deux côte à côte, on comprend mieux comment ça se passe. Hein. Et alors là, ce métope-là, c'est un autre métope encore qui représente Poséidon et le géant Polyvotis. Bon, c'est un géant qui n'apparaît que dans la lutte des dieux et des géants. Hein. Le nom n'est pas utile à garder. Vous voyez que ces métopes sont quelquefois très abîmées. Et là, honnêtement, quand on voit ça, alors on devine bien Poséidon et le géant Polyvotis, hein, qui s'écroule à terre. Enfin, tout ça est très, très abîmé. Heureusement qu'il y a des descriptions de l'Antiquité même, hein, pour nous parler de ces sculptures, et quelquefois des descriptions plus tardives, 16e, 17e, 18e siècle, qui nous permettent de le savoir. Parce que quand on voit ça aujourd'hui, évidemment, on est quand même un peu... Bah, c'est un peu triste. Hein. Voilà. Oui, on pourrait vraiment dire que c'est tout et n'importe quoi. Hein. Mais tout ça a été hyper étudié et on connaît bien maintenant tous ces éléments. Alors, on a regardé le côté sud, on a regardé le côté ouest et le côté est. Maintenant, le côté nord. Le côté nord est le plus abîmé. Hein. Les éléments que vous avez du côté nord, les métopes du côté nord, sont ceux qui sont les moins bien conservés. Donc, ce n'est pas la joie. Hein. En voilà un. Et en voilà un deuxième. Là, je vous dis carrément le sujet, parce que c'est pas possible de savoir autrement. Hein. Là, vous avez un métope qui vous montre Hélène, elle est à droite, qui va vers la statue d'Athéna, que vous devinez à gauche. Et puis au centre, il y a un personnage. Hein. Donc à droite, c'est Hélène qui va vers la statue d'Athéna. Et ce deuxième métope, très abîmé, représente sans doute Athéna à gauche et Héra à droite. À votre avis, ces deux métopes appartiennent à quel cycle, quel thème? À la guerre de Troie, effectivement. Hein. Vous savez comment s'est déclenchée la guerre de Troie? C'est Hélène, hein, la fameuse belle Hélène, hein, que Offenbach plus tard va mettre en musique. Vous connaissez ça, hein. C'est parce que Paris a enlevé Hélène que toute la guerre de Troie s'est déclenchée. La guerre de Troie, c'est fondamental dans la culture grecque, c'est fondamental pour nous. La guerre de Troie est sans doute une des bases de notre culture occidentale, tout simplement. Hein. C'est capital, la guerre de Troie. Hein. C'est la base sur laquelle, je dirais, l'édifice occidental est construit. Hein. Alors, c'est vraiment une base de notre imaginaire. Hein. Eh bien, là, vous avez effectivement deux épisodes de la guerre de Troie, à un moment où Hélène se rend vers la statue d'Athéna, parce que vous savez que Athéna, c'est elle qui protégeait les Troyens. Qu'est-ce qui protégeait, qu'est-ce qui était du côté des Grecs, des ennemis des Troyens?
Ouais. Aphrodite était du côté de Paris, du côté d'Achille.
Athéna, c'était plutôt les Grecs.
Bah, c'était Héra.
Ah, oui,
il y avait quelquefois de là, vous voyez, justement, certaines discussions entre l'un et l'autre.
Hein. Elle était plutôt
Sauf que, ben oui, mais vous savez que lorsque Thésée va quitter Troie, il va en avec lui le Palladium, qui est justement la statue d'Athéna. Aînée, pardon. Voilà. Vous voyez que ces métopes-là sont extrêmement, extrêmement abîmées, mais effectivement, ils évoquent hein, des scènes de la guerre de Troie. Alors, on récapitule. Hein, revoilà un plan du Parthénon. Au sud, on a vu des métopes évoquant quoi?
Des centaures et les lapides.
Combat des centaures et des lapides. Du côté ouest? Non. Voilà. Combat des Grecs et des Amazones. Du côté est, le combat des dieux et des géants. Et côté nord, les épisodes de la guerre de Troie. Pourquoi mettre sur ces métopes ces différents thèmes? Quel est le but? Parce qu'on a là effectivement toute une série de décors qui évoquent des tas de choses. Pourquoi?
Parce que c'est l'histoire de
la Grèce ancienne. Oui, donc c'est effectivement une référence à l'histoire, aux racines grecques, effectivement, hein, chose qui plonge vraiment dans les racines de la Grèce. Ça, c'est un élément.
Politiquement, c'était utile.
Politiquement, c'était utile.
Parce que les Grecs s'étaient unis contre les Troyens.
Oui.
Là, on s'unit. Contre les Perses.
Donc, la représentation, par exemple, de la guerre de Troie au nord est une manière de rappeler cette union des Grecs contre un ennemi commun, en l'occurrence Troie, mais pourquoi pas les Perses aujourd'hui, entre guillemets. Mmh. Oui.
C'est une hypothèse.
Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme raison? Pourquoi mettre, par exemple, ce combat entre les centaures et les lapides? Ou entre les Grecs et les Amazones.
Les Grecs et pas les barbares qui l'emportent.
L'idée, c'est de montrer la lutte entre les barbares d'un côté, ceux qui ne sont pas Grecs, autrement dit, et les Grecs de l'autre. Les Lapithes sont des Grecs, hein. C'est une population grecque. Hein.
Oui, mais les Centaures.
Ah, ils sont considérés, ils sont liés aux Lapithes, mais ils ne sont pas Grecs. En tout cas, on ne les considère pas vraiment comme des vrais Grecs. Ils sont des barbares. Ils sont mixtes, je dirais. Hein. Et les Amazones, idem. Hein. Quant au combat des dieux et des géants, c'est la même chose. Hein. On a vu que c'était le combat entre les vieux dieux archaïques, vieillots et un peu surannés, et les jeunes dieux plus convenables, plus raisonnables, enfin bref, ceux qui vont devenir les maîtres de l'Olympe. Donc effectivement, tout autour, vous avez ces métopes. Encore une fois, il y en a 92, hein, il n'y en a pas 3. Hein. Des métopes qui font 1m50 de haut et de large. Hein, c'est des grands documents. Hein. Je pense que c'est un truc qui sont allés au British Museum ou au musée de l'Acropole d'Athènes. On en a vu. Ou au Louvre. Hein. Vous savez que le Louvre a un métope, une partie loin. Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est celui de la centauromachie avec la femme qui se fait enlever par le centaure. Hein. Voilà. Eh bien, évidemment, c'est une manière de montrer à l'extérieur... j'allais dire, le combat de la barbarie contre la civilisation, quoi. C'est partout les Grecs qui ont le dessus. Ils ont le dessus à Troie, bien sûr, mais ils ont le dessus contre les Amazones, contre les Centaures. Ici, est montré à l'est la prééminence des grands dieux de l'Olympe sur les vieux dieux archaïques. Entre parenthèses, pourquoi on a mis à l'est plutôt qu'au nord, à l'ouest, ou que sais-je, ce thème du triomphe des dieux de l'Olympe sur les vieux géants? Parce que c'est à l'entrée du temple. Hein. L'entrée du temple est effectivement ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait, à votre avis, dans cette partie du temple, là ?
La statue.
Hein. La statue d'Athéna. Donc, effectivement, l'entrée du temple, elle est là. Elle n'est pas là. Hein. C'est d'ailleurs bizarre, parce que... Pourquoi est-ce que... A priori, on pourrait penser qu'elle est là, l'entrée ? Ça, à cette époque-là... Voilà, les propylées, elles sont là, je vous rappelle. Hein. Hein. Donc, moi, je dis, je vous remonte le plan de l'acropole ?
Non.
Si. Allez, vite, hein, les craintes. Voilà, hein. Voilà le plan de l'acropole. Les propylées sont là. On pourrait se dire, on entre par les propylées, on va voir Athéna, puis voilà, quoi, c'est quand même pas compliqué. Eh ben non.
C'est une procession.
Ben. Je sais pas, mais en tout cas, parce que la procession, on pourrait faire ça, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Et on passe effectivement par là. Donc c'est-à-dire que l'entrée, elle n'est pas du côté des propylées, elle est du côté arrière. Hein. Et effectivement, si on a mis les représentations des dieux, hein, qui sont les vainqueurs des géants, ici, c'est parce que l'entrée est effectivement là. Hein.
Et l'autre partie, à quoi sert-elle ?
Cette partie-là,
c'est
la piste d'eau.
Alors, là, voilà, ça c'est ce qu'on appelle quoi ? Je vais remettre le plan. Je vais remettre le plan du parc. Je l'avais là. Voilà. Donc ça, donc l'entrée est effectivement là. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle quoi ?
Le Naos.
On peut dire Naos. Voilà, le Naos ou la Cella, hein, c'est les deux mots. Donc c'est là où se trouve, on l'a vu,
la statue
de culte. Hein. Et ça,
le trésor.
Voilà, ça s'appelle l'opistodome, précisément, pour employer le terme antique. Et c'est effectivement un lieu où on mettait un certain nombre d'éléments du trésor, hein, et notamment des offrandes faites à Athéna. Il y avait plein d'autres lieux, mais enfin, notamment ici. Voilà. Bien. Alors, on a vu la question des métopes, et on a vu ce que représentaient les métopes et pourquoi les métopes représentaient cela. Alors maintenant, on va regarder... La frise, mais la frise intérieure. Parce que les métopes et les trigyphes forment une sorte de frise extérieure. Il y a une deuxième frise, vous vous rappelez ? La frise intérieure. Hein, continue, absolument. Et là, je voudrais d'abord qu'on regarde les côtés ouest. Donc, les métopes, ils étaient là, sur les colonnes extérieures. On est d'accord ? Hein, la frise, elle orne le dessus des colonnes à l'ouest, au nord... Au sud, c'est ça qu'on va regarder maintenant, mais également à l'est. On regardera à l'est après. On va d'abord regarder la frise dans ces trois côtés-là, nord, sud, ouest. J'ai choisi un certain nombre de détails de cette frise que je vais vous montrer. il va falloir que vous me disiez ce que ça représente et dans quel ordre c'est. Est-ce que c'est au nord, est-ce que c'est au sud, est-ce que c'est à l'ouest? Vous allez, en voyant ce qu'il en est, il fait chaud dans cette salle, essayer de voir où sont les éléments de la frise en question. D'accord? On commence? Je vais déjà vous les montrer et après, vous me direz ce que ça représente et où c'est. Je les repasse. Voilà. Voilà donc des éléments représentatifs de la frise en question. Alors, on peut commencer déjà par cet élément-là. Que ça représente ? Deux cavaliers, très bien. Vous auriez une idée de l'endroit où ça peut être et, pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment à quoi ça correspond, mais vous auriez une idée de l'endroit peut-être où ça pourrait se trouver sur le... sur le Parthénon, et c'est peut-être trop tôt pour le voir, je ne sais pas. Vous avez une idée?
Non.
Non? Bon, on verra après. Donc, deux cavaliers, très bien.
Mais ils se dirigent vers la gauche.
Ils se dirigent vers la gauche.
Là, ils se dirigent vers la droite.
Donc, d'autres cavaliers qui, effectivement, se dirigent vers la droite. Ça vous inspire? Donc, voilà. Effectivement, sur des côtés opposés, autrement dit, ces cavaliers-là, a priori, ne se trouvent pas sur le même côté que ceux-là. Ça voulait dire. Hein, okay. Comment ils se rendent dedans? Voilà. Pardon?
Ils se dirigent
vers l'entrée du temple. Autrement dit, on aurait les cavaliers qui iraient vers la droite, c'est ça. D'accord? Ça, qu'est-ce que ça représente? Ils emmènent un cheval au sacrifice. On ne sacrifie pas les chevaux. Ils le vendent.
Non, ils le préparent pour la procession.
Ils le préparent. Donc on sera en train de préparer un cheval. Quand on dit, ça se situerait où par rapport à ce qu'on a vu avant? Avant. D'accord. Donc on aurait là quelque chose qui représenterait la préparation d'un cheval. Et
là, c'est le
char. Là, il y a un char. Char attelé.
Ils n'ont pas la même facture d'un côté et de l'autre.
Pas la même facture toujours. Donc, une différence de style.
Ah oui. Et de relief, l'importance du relief.
Mais là, on est en train de conduire
donc, on conduit un taureau. Au sacrifice.
Des
porteuses d'offrandes.
Des
panathénées.
Elles sont pas dans le même sens que le taureau.
Pas dans le même sens que le taureau. Donc ça voudrait dire quoi? Ok. D'accord, donc elles n'appartiennent pas à... Puisque c'est pas le même sens, ça n'appartient pas à la même frise. Des cavaliers, bien.
Dans le même sens que les jeunes filles. Là, c'est dans un sens autre.
Là, il y a des guerriers. On a les trois côtés, là, aussi. Il y a les deux champs.
Les trois. D'accord. Nord, sud et ouest.
J'étais au sud. Enfin, ouest.
Moi, je ne vois pas de char.
Non, il
n'y
a pas de char.
Mais si.
Si, parce qu'il y a ils sont
sur char.
Donc, on aurait un quadrige, quatre chevaux, hein, qui tire un char. Ça nous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, non?
Oui.
OK.
Voilà, la possession.
Qu'est-ce que c'est?
Oh, celui de droite, il n'a pas l'air très... C'est son aise, hein.
Des prisonniers.
Des prisonniers. Ah oui, c'est possible.
Des esclaves, des...
Vous ne les trouvez pas très gays, c'est ça?
Non, non.
Il y a un enfant.
Voilà,
toujours. Et les vainqueurs, c'est les vainqueurs. Dans l'autre sens.
Des cavaliers dans l'autre sens. Des taureaux quand même au sacrifice.
Ah, c'est les personnages de l'État. Voilà.
Personnages de l'État.
Des membres du conseil. Ou de
notables. Des notables. Des notables. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu à peu près ce que ça représentait, on va voir ce qu'il en est. Hein. On va essayer de voir si c'est au nord, au sud ou à l'ouest. Puisque l'est, on n'en parle pas pour l'instant. Hein. Ok. Ça, vous mettez ça où? Je rappelle que le nord, c'est en haut. Hein. Le sud, c'est en bas. Et l'ouest, c'est à gauche. Hein. Alors, ça, c'est à l'ouest. D'accord.
Au nord,
sud,
au nord,
au nord,
on va aller vers l'entrée.
Alors, au nord et au sud, je sens qu'il y a un flottement. Qui est pour le sud?
Non, ils vont devant le temple. Ils font le sacrifice devant le temple.
Oui, il y a l'autel.
Alors, c'est sud ou nord?
Non.
Nord. Donc au nord. Oui. Tout le monde est OK avec ça? Il n'y a pas de sudistes? Non.
C'est
dans l'autre sens, donc c'est au sud.
Donc c'est au sud. Si l'autre est au nord, ça c'est au sud. OK.
Nord.
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 Si, enfin, même côté. Si c'est le même.
Nord-ouest,
sud,
ou
ouest.
Sud
ou ouest.
Nord.
Ouais.
C'est beaucoup au nord. Hein.
Oui.
Sud.
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 Nord-ouest. Nord-ouest. Sud.
Sud.
Ouais, c'est bien difficile.
Autrement dit, si je vous suis bien, les personnages ou animaux qui vont vers la gauche, c'est au nord, et les personnages ou animaux qui vont vers la droite, c'est au sud. Et à l'ouest? Ouais, vous n'avez pas beaucoup parlé de l'ouest. Hein.
Bah, il y a des personnages là.
Ils se croisent. Ils se croisent à l'ouest et au... Ils se croisent. Ok. Qu'est-ce que ça représente tout ça?
La procession.
Une procession. Alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. La procession de quoi?
Des
Panathénées. C'est quoi la procession des Panathénées?
La grande fête en honneur d'Athéna.
La grande fête en honneur d'Athéna. Athéna, comment d'ailleurs?
Promachos.
Ou
Niké, peut-être. Ou
Niké.
Ou n'importe qui.
Panathénée.
Ben, c'est l'Athéna jeune fille, Athéna Panathénée.
Et Athéna jeune fille, c'est quoi Athéna jeune fille? Son nom?
Athéna Parthénos.
Athéna Parthénos. Alors, vous avez un petit peu raison d'évoquer tous ces noms, parce que Athéna, suivant la valeur qu'on lui donne, elle peut avoir différents noms. Hein. Athéna jeune fille, vierge, etc., c'est Athéna Parthénos, celle qui est hébergée dans le Parthénon. Hein. Mais il y a à l'entrée de la Croix d'Athènes, la Victoria, un petit temple qui s'appelle le temple d'Athéna Niké. On a vu ce que c'était Niké, c'est la victoire. Ben, c'est un petit temple où Athéna est évoquée sous l'angle de la victoire qu'elle amène. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure d'Athéna Promachos. C'est quoi ça, Athéna Promachos? Voilà, c'est l'Athéna guerrière. Il y avait sur l'Acropole, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs tout à l'heure, une grande statue représentant, c'était énorme, une Athéna guerrière. Hein. Voilà. Donc Athéna, Il y a même parfois une autre Athéna qu'on appelle Athéna Erganée. Ça voulait dire quoi, ça?
Artisan.
Voilà, c'est ça. Hein. Ouvrière. Parce que, voilà, ouvrière, en quelque sorte. Athéna, vous savez, c'est une guerrière, ok. Elle est victorieuse, c'est une jeune fille, bien comme il faut. Mais c'est également une ouvrière, quelqu'un qui sait vraiment bien travailler. C'est la déesse de l'intelligence, Athéna. Hein. Donc elle est tout ça. Donc selon... si vous voulez, l'élément d'Athéna qu'on veut mettre en valeur, elle a différents noms. Nike, Promachos, Parthénos, Erganée. Athéna, elle peut comme ça être... si vous voulez, sa nature peut être soulignée de différentes manières. Effectivement, cette procession que vous voyez là, c'est la procession qu'on appelle les Grandes Panathénées, en l'honneur d'Athéna Parthénos, mais d'Athéna tout court, effectivement. Hein. C'était quoi cette procession? Quel était le but?
Annuel?
Annuel?
Non. Bisannuel. Pas les petites Panathénées, les grandes.
Oui, alors il y a les Grandes Panathénées. Là, il s'agit des Grandes Panathénées. Les Grandes Panathénées, c'est...
Tous les 4 ans.
C'est tous les 4 ans, effectivement. Hein. Tous les 4 ans, il y avait ce qu'on appelait les Grandes Panathénées. Donc une procession, vous y viez d'ailleurs allusion tout à l'heure, hein, qui se terminait sur l'Acropole, au Parthénon. Cette procession avait quoi comme but? De rendre honneur à Athéna, d'accord, mais il y avait...
Un sacrifice.
Alors, on en profitait pour sacrifier à Athéna, c'est vrai.
Et puis on lui apportait des offrandes, les petites Panathénées, elles portent des corbeilles.
Alors, on apportait effectivement des offrandes. Qu'est-ce qu'on apportait à Athéna? Les produits de la terre, on pouvait effectivement lui apporter des offrandes, des produits de la terre. Dans ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a des choses qui vous font penser à ces sacrifices ou à ces produits de la terre ou ces offrandes. Alors, il y a les personnages, hein, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des femmes porteuses d'offrandes, hein, d'accord. Il y a autre chose aussi. Les taureaux, hein, les taureaux qu'on amène. Donc, il y a les taureaux qu'on amène pour les sacrifier, vous l'avez dit, et il y a les porteuses d'offrandes.
Ceux qui étaient un peu esclaves, je ne sais pas quoi.
Ah oui, les prisonniers dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc c'était peut-être également des gens qu'on amenait, ça faisait partie de ce triomphe en l'honneur d'Athéna, pourrait-on dire. Hein. Okay. Et qu'est-ce qu'on faisait d'autre en ces Grandes Panathénées? Donc on apportait des offrandes à Athéna. On lui apportait une offrande bien spéciale.
Un tissu.
Quel tissu?
Un péplos.
Absolument. Un tissu que les jeunes filles d'Athènes tissaient durant 4 ans.
Pour recouvrir la statue.
Ce tissu, c'était quoi?
Son vêtement.
Hein. Voilà, ce qu'on appelle le péplos. Hein, le péplos. Vous rappelez la dernière fois? On a vu une corée, vous vous rappelez de... Hein, on a vu une corée qui avait un vêtement très particulier, avec un vêtement assez plat. Vous vous rappelez de ça? Elle était vêtue, je ne voulais pas dire ce mot-là, de ce qu'on appelle un péplos. Hein. Eh bien, tous les 4 ans, on offrait à Athéna un péplum neuf. Un péplos. Les ergastines, précisément. Hein. D'ailleurs, Athéna Erganée, les ergastines, ça veut dire les petites travailleuses, hein, les jeunes filles travailleuses. Donc les ergastines, les jeunes filles travailleuses, amènent à Athéna un péplos neuf qu'elles ont brodé durant des années. Hein. Effectivement, c'était pour recouvrir une des statues d'Athéna, parce qu'il y en avait plusieurs. Hein. Et le péplos neuf était précisément amené à la vieille statue d'Athéna, parce qu'il y a plein de statues d'Athéna sur l'Acropole. Hein. Et il y a notamment ce qu'on appelle le Xoanon. Le Xoanon, c'est une vieille statue en bois, hein, qui est censée provenir de temps très très anciens, et qui était conservée sur l'Acropole, mais pas dans le Parthénon. Et c'est à cette statue-là qu'on amenait le péplos. Mais ça n'empêchait pas qu'on aille quand même vers le Parthénon. Donc effectivement, c'est cette cérémonie qui a lieu tous les 4 ans, les Grandes Panathénées, qui est montrée sur la frise en question. Alors vous avez raison, hein, il y a les cavaliers. Hein. Il y a les cavaliers. Alors ils vont dans un sens, ils vont dans l'autre. Vous avez bien compris que tout le monde se dirigeait vers l'entrée. Donc eux, ils font partie effectivement de la frise sud, alors que juste avant, ils faisaient partie de la frise nord. Ça, en fait, c'est à l'ouest. Parce que du côté ouest, hein, qui est donc le côté face au propylé, vous me suivez, hein, il y a les préparatifs. Hein. Il y a, si vous voulez, la procession sur les deux longs côtés, mais sur le côté ouest, on se prépare. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire le bruit, il faut déjà se préparer. Ben, ça, c'est du côté ouest. OK ? Ça, c'est effectivement un char, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est vous d'ailleurs qui me l'avez dit, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui vous le dirais. On a parlé de cette procession, ce qui veut dire que les chevaux que vous avez vus là, ils font partie de la procession, et les chars aussi.
Oh, oui.
Ouais.
Bah,
ils sont en tout cas représentés dans le...
Dans le cortège.
Dans le cortège.
Ouais. Alors, ils en font effectivement partie, mais ils se réfèrent à autre chose. Il y avait au moment des grandes Panathénées, des jeux, qui avaient lieu plutôt sous l'Acropole d'ailleurs, hein, des jeux de course de chevaux et de course de chars. C'est ce qui est évoqué là. Hein. C'est pour ça qu'il y a des chars, des quadriges, et des... ou des biges d'ailleurs, et des cavaliers. Qui se réfèrent au cours. Et vous avez donc raison, on amène des bêtes au sacrifice. Ce ne sont pas des taureaux, ce sont des génisses. Quant à ça, ce ne sont pas des porteuses d'offrandes, mais des porteurs d'offrandes. Hein.
Voilà. C'est des hommes, effectivement.
C'est des. Effectivement, ils portent des idris, on amène des offrandes. Alors, il y a de très nombreux cavaliers. Qu'est-ce qui vous frappe quand même dans le rendu de cette frise ?
C'est le corps humain et les drapés.
Alors, il y a effectivement une sorte d'exaltation du corps humain. Ça, effectivement, hein. C'est quand même une chose très visible. Ici, on aurait pu dire la même chose sur les métopes qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez du centaure avec le lapite mort à terre, par exemple. Hein. Comme une exaltation du corps. Des animaux, effectivement, les chevaux, c'est admirable. Hein. Vous parliez des questions de drapé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, d'ailleurs, par rapport à ça ? Vous parliez de corps, vous parliez de drapé.
Il y a des corps habillés, des corps pas habillés.
Oui.
Et il y a surtout l'idée de la profondeur, c'est quand même extraordinaire de voir qu'il y a plusieurs. Ils sont sur plusieurs champs.
Absolument.
Il y a plusieurs niveaux.
Absolument. C'est-à-dire que là, vous voyez quand même, je ne sais combien de niveaux superposés, notamment à droite. Hein. Il y a un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, et ça sur une épaisseur qui fait ça. Hein. C'est-à-dire que, parce que les métopes qu'on a vues tout à l'heure, c'était du haut relief. Les métopes, c'est creusé comme ça, hein. C'est vraiment des hauts reliefs. Là, c'est du bas relief. C'est-à-dire que vous avez vraiment un relief très très plat, et pourtant, on arrive quelquefois à vous mettre jusqu'à 4 rangées différentes. Hein. Donc c'est effectivement techniquement d'un brio exceptionnel. Donc évidemment, on a là, sur le plan stylistique, si vous voulez, et technique, un tour de force. Un relief très très plat, et pourtant avec effectivement des plans différents. Et vous avez bien vu, ça peut être d'exaltation du corps humain ou de l'animal, hein, une espèce de beauté idéale hein, qu'on met vraiment en avant de toute manière. Hein. Et vous avez remarqué également là, cette question des drapés, il y a en fait un grand contraste entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que le drapé met en valeur le corps met en valeur le drapé. Hein. Je crois que c'est assez visible là avec ce personnage à l'arrière hein, qui se dénote par rapport aux autres. Mais vous voyez que cette espèce de contraste drapé nu est quelque chose qui est très très important effectivement dans la sculpture antique grecque.
Il n'allait pas dans le même sens.
Pardon ?
Il n'allait pas dans le même sens que.
Oui, alors ça, vous avez raison. C'est fait aussi pour, casser un peu la monotonie de la frise. Quoi, hein. Effectivement, régulièrement, il y a des personnages un peu dans l'autre sens pour. Modifier un peu le cours des choses. Le gros de la procession va dans le même sens, mais de temps en temps, il y a un personnage dans l'autre pour casser un peu cette systématique-là. Hein. Bon, ben, là, vous avez bien connu à nouveau un char, hein, tiré par des chevaux. Là, ça se situe à l'ouest aussi, hein, ou du moins, si ma mémoire est bonne, au tout début de la frise nord. Hein, parce qu'à l'ouest, il y a, vous savez, les préparatifs, hein, et il continue au tout début de la frise nord et sud. Ça, c'est un des reliefs qui est tout à fait au début de la frise nord, avant vraiment que le cortège des cavaliers commence vraiment. D'accord ?
Ça, c'est la frise nord.
Aussi, il y a plusieurs plans. Oui, oui. Vous voyez, c'est d'un brio absolument extraordinaire.
On a bien l'impression du mouvement.
Oui, très mouvementé, effectivement. Bon, alors là, on est de nouveau au sud, là, on est d'accord. Là, on est de nouveau au nord. Et là, vous avez raison, hein, ce sont bel et bien des magistrats de la cité. Hein. Bon, ça se voit, ils sont un peu plus épais, on va dire, dans leur corps. Hein. Toujours avec ce contraste nu et vêtements. Hein. Bon, ils ont des barbes, etc. Ils ont un côté très vénérable. Hein. Ce sont des personnages, ce sont des sages, hein, on comprend bien. Hein. Ils font partie de ce cortège. Hein. Alors, je vous montre très rapidement avec les notices. Voilà, donc, deux éléments qui appartiennent à la Frise Ouest. Dans la Frise Ouest, il y a des cavaliers qui se préparent, mais il y a également quelques cavaliers, mais les uns derrière les autres. Vous voyez, c'est vraiment de tout début du cortège. On se prépare, on commence à monter à cheval pour rejoindre les autres. Hein. Donc ça, c'est du côté, décidément, ouest. Là, je vous montre des éléments, ben, c'était le cas, effectivement, pour la frise, le morceau de frise de droite, hein, mais des éléments de la frise nord, c'est-à-dire qu'on finit de se préparer et le cortège des chevaux avance, chevaux ou bien chars. Et puis, un peu plus loin, on a toujours au nord, et vous l'aviez bien vu, hein, les magistrats, les porteurs d'offrandes, les animaux qu'on mène au sacrifice. Et du côté sud, ben, c'est un peu la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Hein. On a de nouveau des chevaux qui vont dans la même direction, hein, c'est-à-dire cette fois toujours à l'est, et on a à nouveau des chars, mais aussi des bêtes qu'on mène au sacrifice, et tout le monde va vers l'entrée. Hein. C'est une immense procession. Mais on n'a pas vu le côté est. Je ne vous l'ai pas montré. C'est que le côté est, il est un petit peu spécial. Je vous le montre.
Les dieux. Non. Oh non.
Les dieux discutent.
C'est l'Olympe ou pas?
Je vous les repasse. Alors, ça vous dit quoi? Des hommes et des femmes, relax. Oui, on a l'impression que ça va, qu'ils sont bien, ils sont assis, c'est assez confortable. Oui, on n'a pas l'impression qu'ils fassent partie de la procession.
Hein. Non,
on a l'impression qu'ils sont un peu extérieurs à la procession.
Ce ne sont pas les dieux.
Pardon.
Ce ne sont pas des dieux.
Ce seraient les dieux.
Ils assistent au spectacle.
Ils assistent au spectacle. Mais pourtant, on a dit qu'ils avaient des attitudes un peu relâchées. Oui. C'est cool, quoi. Hein. Ce seraient donc les dieux qui sont là, dans des attitudes, vous voyez, très... oui, pas très officielles, hein. On est loin du caractère très officiel de cette procession, hein, où les uns vont derrière les autres, il y a les magistrats, il y a les bêtes au sacrifice, il y a les porteurs d'offrandes, etc. Donc on aurait les dieux qui sont là, un peu relâchés, et qui agissent en procession, mais en se grattant les ongles, et en... C'est ça, hein, peu, finalement. Hein.
Sur un temple, c'est bizarre.
C'est bizarre. Bon, bah regardons la deuxième plage.
Là, c'est beaucoup plus raide.
Hein. Ah, là, c'est plus raide. Hein. Là, c'est raide, hein. Alors, c'est quoi les ergastines déjà?
Celles qui
apportent le péplum. Celles qui l'ont réalisé, qui l'amènent. Il n'y a que des ergastines, si c'est des ergastines alors?
Ben non, parce qu'il y a un homme.
Il y a un homme. Il y en a même deux.
Il y en a deux.
Alors, on parle péplos.
Ils viennent dans les deux sens.
Mais qu'est-ce qu'elles ont à la taille?
Alors, elles ont justement elles-mêmes un péplos. Hein. Et vous voyez, le péplos, en fait, alors je ne me suis pas habillé en péplos, mais je crois que vaut mieux pour vous d'ailleurs, et pour moi. Mais le péplos, c'est une sorte de drapé, si vous voulez, qui fait qu'on a un drapé qui monte, il y a ensuite une sorte de bourrelet qui redescend et qui revient par devant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait une espèce de grand... Voilà, une sorte de poche, et c'est maintenu par une ceinture.
Hein.
C'est ce que vous voyez là, hein. Ça descend, ça remonte, c'est ceinturé, ça redescend. C'est ça un péplos, d'accord, hein. Donc elles ont un péplos, et c'est, donc ce seraient les ergastines, celles qui ont réalisé le péplos d'Athéna, et donc là il y a deux messieurs qui sont en train de discuter avec elles. Hein. Sympa. Pourquoi? Et là donc ça y est, c'est les dieux qui continuent à discuter.
Hein. C'est pas un dieu.
Très bien. Et là
c'est la même chose.
La même chose.
Alors, Elles sont pas dans le même
la
sens.
La même chose que quoi?
On a vu tout à l'heure, mais elles sont pas dans le même sens.
Donc ce seraient les ergastines de tout à l'heure, sauf qu'elles sont dans le même, elles sont pas dans le même sens. Donc elles vont se rencontrer. Autrement dit, celle-là, elle serait, on est dans la frise est, on est bien d'accord, hein, hein. Donc là, elle serait où sur la frise est? Elle serait à gauche, au côté sud. Et les autres, comme on a dit tout à l'heure, c'est plutôt à droite. Hein. Et les deux cortèges des ergastines viendraient se rencontrer au centre.
Okay. Là, il y a les dieux
ou pas,
les gens assis.
Et au centre, il y aurait les gens assis.
Oui, les personnages assis.
Ok. Personnages assis.
Mais ce sont des offrandes, quand même.
Oui, elles portent des choses sur la tête.
Alors là, il y en a deux qui portent des choses sur la tête.
Là, c'est le péplos.
Ah oui,
non, c'est pas le
péplos.
Là,
voilà le péplos.
Là, il est plié.
Donc là, on amènerait le péplos, qui est plié, mais qu'on est en train de déplier, peut-être.
Oui.
Ah oui.
Et alors à gauche,
des
offrandes. Donc on aurait à gauche deux personnes qui amènent des offrandes, et à droite, l'arrivée du péplos.
Mais les offrandes sont un peu plates.
Les offrandes sont plates.
Ouais. Enfin, c'est un...
Ça vous rappelle pas un peu quelque chose, d'ailleurs, ça et ça?
Des morceaux de...
Si je vous remonte, c'est avant.
Oui, des hommes qui portaient des...
Et même avant, pardon.
Ah, ils ont aussi des
couches. Parce qu'elles portent sur leurs vêtements, les... Qu'est-ce qu'il y a au-dessus?
Si je vous montre ça, donc, et ces femmes qui ont quelque chose sur la tête, ça ne vous rappelle rien? Non.
Personne ne mange.
Pardon?
Les rapports.
Personne ne mange, il n'y a pas de...
Personne ne mange, non, on ne mange pas beaucoup, c'est vrai. On peut, quand on fait grande paille ténée, on ne va pas bouffer au milieu. En fait, ce qu'elle porte, c'est des petits tabourets. C'est-à-dire que les pieds, là, ils sont cassés, si vous voulez. Mais il y avait les pieds, d'ailleurs, on en voit encore les emplacements, mais qui partaient... Là, on devine l'arrachement de l'un d'eux, si vous voulez. Qu'elles tiennent sur la tête des petits tabourets comme ceux sur lesquels sont assis les personnages que vous avez vus tout à l'heure. Voilà. Ah oui, ça. Et alors ça?
C'est encore un couple ou un père, une fille, je
pense. Donc toujours des gens qui bavardent. Ok. Et ça? Encore des gens qui bavardent. Alors, décidément, ces gens qui bavardent, c'est qui? Eh bien, c'est les dieux, effectivement. Hein, vous l'aviez deviné, ce sont les dieux. Et vous avez bien deviné que ce côté est représentait effectivement aux deux extrémités les ergastines, qui sont donc au début, si vous voulez, la procession et qui vont se rencontrer devant le temple. Hein. Alors, les dieux, vous les mettez au centre de ça, hein, si j'ai bien compris. Hein. C'est ça? Voilà. Ben, vous avez raison. Les dieux sont effectivement au milieu. Et puis les ergastines de chaque côté. Par contre, il y a quand même un de ces éléments-là qui est au milieu des dieux, c'est lequel? Parmi les reliefs que je viens de vous montrer, il y en a un qui est entre deux groupes de dieux.
C'est...
Pardon?
Il faudrait que ce soit Athéna.
Mais on peut le repasser.
Vous pouvez nous le montrer.
Je vous remontre tous les éléments, vous allez me dire quelle est la plaque qui est au milieu.
Celle-ci? Non,
c'est la dernière. Alors laquelle est au milieu?
Là où il n'y a que deux
personnes.
Oui, il n'y a que deux personnes.
Bon, vous disiez, c'est du péplos, peut-être?
Oui.
Eh bien oui, c'est celle du péplos. C'est-à-dire que vous avez sur cette frise de l'Est, les ergastines à droite et à gauche, puis les dieux, et au centre, ben, ce qui fait vraiment le cœur de la cérémonie, l'armiste du péplos, qu'on remet à l'archonte. L'archonte, c'est en gros un personnage qui est à la fois élu, mais qui est considéré comme le roi de la cité. On remet le péplos au roi, à l'archonte roi et à son épouse, l'archonte reine. Hein. en re-regardant un peu cette frise, vous aviez raison, ce sont là des ergastines. Là, vous avez donc certains des dieux. En l'occurrence, on sait qu'il s'agit d'Hermès, Dionysos, Déméter et Arès. Vous aviez raison de dire qu'ils sont là dans une attitude qui tranche complètement avec, avec celle du côté très solennel de la procession. Hein. Alors, on trouve toujours cette importance du corps, ce travail sur les plans, cette différence entre le nu et l'habillé. Mais en effet, les dieux, ils sont très, très relax. Hein. Regardez, par exemple, à droite, Arès. Vous avez vu comment il se tient, hein. C'est quand même le dieu de la guerre. Il est tranquille, quoi. Hein. Alors là, c'est carrément Héra et Zeus. Hein. On rigole pas, quand même. Hein. Voilà. Et là, vous aviez donc raison, il y a des ergastines à gauche qui amènent ces tabourets dont je vous parlais, et là à droite, la remise du péplos à l'archonte. Et derrière l'archonte, que vous voyez, c'est le deuxième important à droite, il y a l'épouse de l'archonte qui accueille les ergastines. Là, Athéna et Héphaïstos, elle est bel et bien présente, mais elle est parmi l'assemblée des dieux. Et là, pas plus. Et là, vous avez Poséidon, Apollon, Artémis, bref, tous les dieux sont là. Alors, ce qui est, et alors ça, c'est l'autre relief des ergastines, hein, celui donc qui est à droite. Par parenthèse, ça c'est au Louvre. Le Louvre a un métope, on l'a vu tout à l'heure, un morceau de la frise, c'est ce que vous voyez là, c'est ce morceau avec des ergastines. Je vous montre là le déroulé de la frise est. Hein. Vous aviez donc au centre la remise du péplos, on est d'accord? C'est tellement long que je n'ai pas mis les extrémités avec les ergastines, mais il faut que vous les imaginiez à l'extrême droite et à l'extrême gauche, d'accord? Et entre, vous avez les dieux, très tranquilles. Alors ce qui est amusant, vous le voyez, c'est que les dieux, ils tournent le dos. Vous voyez, ils tournent le dos là, et là aussi. Hein. Vous l'avez remarqué, hein, les dieux, ils ont une attitude qui tranche absolument avec les restes, parce que ce n'est pas des êtres humains, si vous voulez. Les dieux, ils sont ailleurs. Donc, ils ne sont pas là, au rang des pâquerettes, en train de faire leur procession. Ça, c'est bon pour les Athéniens, si vous voulez. Hein. Les dieux, ils sont là, dans l'Olympe, ma foi, regardez un peu ce qui se passe sur Terre. Mais, si vous voulez, ils sont sur un autre plan, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pour ça qu'ils ne sont pas liés à la procession terrestre. On est en train de remettre le péplos, c'est pour ça que c'est au centre, d'accord, c'est important, c'est le nœud même de la procession. Mais les dieux, si vous voulez, ils sont immanents, hein, ils ne sont pas les deux pieds dans la glaise de la procession. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ils sont les faire présenter d'une ère tout à fait autre, ils tournent même le dos à l'épisode là, ils regardent par contre les cortèges des ergastines arriver, hein, mais ils sont vraiment sur un autre plan au niveau de la représentation. Donc c'est effectivement assez, assez curieux, assez étrange. Il y a une chose qu'on n'a pas vue encore. C'est les frontons. Ah tiens, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un morceau de procession. Hein. Des enfants. C'est quoi ça? Donc on voit des gens et deux enfants. Bien. Procession encore. Ça me rappelle quelque chose.
Est-ce qu'on avait vu avant,
c'est-à-dire
la famille, c'est la présentation de la famille. Il y a un personnage lauré, d'ailleurs.
Ce que vous voyez là est un morceau de la procession de l'Arapacis Augustae. Ce morceau se trouve au Louvre aussi, pour des raisons historiques. Donc, ce que je voulais simplement vous montrer en vous montrant ça, c'est comment, quand on a fait les processions de la Rapacis, on s'est référé à la frise du Parthénon. Parce que la frise du Parthénon, qu'est-ce qu'elle a finalement de spécifique que les Romains vont reprendre et vont développer considérablement? C'est quoi? Pardon?
C'est cette succession de plans.
Alors, effectivement, vous avez la même chose, la succession de plans. Donc au niveau technique, stylistique, il y a cette même idée de superposition des plans. Et au niveau iconographique, cette fois?
Les plis, le corps mis en valeur.
Et puis les visages?
Oui.
C'est plus une transparence.
Ok, alors ça c'est toujours un peu stylistique. Mmh. Mais sur le plan iconographique, quel est le point commun entre ça, la Rapacis, on en a parlé la première séance, et la frise des grandes palatées? Pardon?
Les enfants.
Il n'y a pas tellement d'enfants dans la frise des Panathénées, hein. Il y a des jeunes.
Les personnages,
Des mortels, oui, mais encore. Alors voilà, certains allaient dire que ce que vous avez dans l'Arapacis avec les processions, tout comme ce que vous avez dans la frise des grandes Panathénées, c'est effectivement la représentation d'événements contemporains. Et ça nous paraît banal, mais c'est complètement nouveau ça. Jusqu'à maintenant, en Grèce, il n'en était pas question. En Grèce, on n'avait jamais montré d'événements contemporains. D'ailleurs, rappelez-vous, les métopes, ils représentent quoi ? La bataille avec les centaures, je rappelle la centauromachie. La bataille avec les Amazones, on appelle ça une amazonomachie. La bataille contre les gens, une gigantomachie. Bref, on représente des tas de choses qui viennent de des tréfonds de la mythologie, mais tout ça, ce n'est pas des thèmes actuels, ce n'est pas des choses réelles. Les grandes Panathénées, c'est des choses réelles. Ça se passe sur les 4 ans, c'est contemporain. Donc, je veux dire, ce qu'il y a d'extraordinairement nouveau dans la frise du Parthénon, c'est qu'elle représente un événement contemporain. Aujourd'hui, ça nous paraît d'une évidence totale. Mais au 5e siècle avant Jésus-Christ, non. Parce qu'on n'a jamais représenté des éléments d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Il arrive de représenter des stèles funéraires avec les personnages morts, mais qui sont d'ailleurs souvent un peu schématisés. Ça, oui. Mais dans des monuments religieux, dans des sanctuaires, le fait de représenter quelque chose qui montre une cérémonie du temps, ça, c'est absolument novateur. Et l'Arapacis Augustae va reprendre ça, et comme on l'a vu la première fois, hein, la sculpture romaine va complètement développer cette représentation de ce qu'on appelle le relief historique. Vous vous rappelez, on en a parlé la première fois. Ok ? Mais il nous reste les frontons. Ça tombe bien, il nous reste juste le temps pour les voir. On commence par le fronton est, du côté de l'entrée. Ok ? Les frontons, à l'est et à l'ouest, ils sont extrêmement abîmés. Heureusement, Cocorico, un artiste français qui passait par là à la fin du XVIIe siècle, a eu la bonne idée de dessiner ce qu'il voyait. Voilà les dessins du fronton est, dessinés par ce Jacques Carret. Vous voyez, il a dessiné la partie droite du fronton, vous la voyez là, la partie gauche. Bon, c'est bien, mais enfin, c'est quand même un peu abîmé. Si aujourd'hui on essaie de reconstituer le fronton en question, voilà ce que ça donne. Hein. Le fronton reconstitué grâce aux deux dessins de Carret que vous voyez ici et là, hein, on arrive à reconstituer ça. Pas que grâce à Carret, hein, mais grâce aussi à des descriptions qu'on a, etc. Je vous passe les détails. Hein. Mais aujourd'hui, on sait que le fronton est, il représentait grosso modo ça, et Carret n'a vu que ça. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. Si vous allez au British Museum, vous allez voir ça. C'est grosso modo déjà ce que Carret a vu. Hein. Il en a vu un peu plus. Mais enfin, en gros, ce que Carret a vu existe toujours au British Museum. Et là aussi, au British Museum, il reste ça, qui est grosso modo l'équivalent de ce que Carret a vu. Je vais peut-être vous faire un gros plan sur la partie centrale, parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça ?
La fondation.
Il y a Athéna.
Et Poséidon.
Et Poséidon.
Pour la lutte, pour la fondation.
Donc on aurait une lutte entre Poséidon et Athéna.
Oui,
pour
fonder Athènes.
Pour fonder Athènes.
Non, pas ça.
Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
On va couronner Athéna.
Ah oui, il y a alors une victoire, ça s'appelle comment une victoire ?
Nike.
Il y a une victoire qui couronne Athéna. Il y a une Nike qui couronne Athéna. Très bien.
Oui, parce qu'elle a gagné.
Parce que Poséidon, il est assis à droite.
Ah.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, ça, c'est Poséidon, alors
oui. Donc,
qu'est-ce qui fait que c'est Poséidon ? Son trident. Hein. Donc, on a Poséidon, on a Athéna. Alors, lui, c'est qui ? Ah, c'est Zeus. OK. Il est sur un trône, effectivement.
Et il tient
le foudre. Hein. Pas là, mais le, effectivement. Hein. Et là,
Hera.
Hera, c'est Madame Zeus. Hein. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est Athéna qui a gagné.
Athéna, elle a gagné quoi ?
Athènes.
Elle a gagné Athènes. Parce que elle était pas, ça s'est pas bien passé.
Mais non, elle était en rivalité avec Poséidon.
Ah bon, mais pourtant ils ont blair, ça a l'air assez sympa là.
Mais oui, mais on la couronne parce qu'elle a gagné justement.
Ah, on la couronne parce qu'elle a gagné.
Non,
elle a donné l'Olivier.
Pardon ?
Elle a donné l'Olivier.
Et lui, elle a donné l'Olivier. Donc, Athéna a donné l'olivier à qui ?
Athènes.
D'accord. Donc, si je comprends bien, Athéna a fait un cadeau à Athènes, c'est un olivier.
Oui. Et lui, le cheval, l'eau salée, Poséidon, je ne sais pas ce qu'il
Et Poséidon, il a donné quoi ?
Soit un cheval, soit une source d'eau salée.
Soit un cheval, soit une source d'eau salée. Donc il y a eu une sorte de rivalité entre Athéna d'un côté et Poséidon de l'autre. L'un, qu'est-ce qu'il voulait après de rivalité ? Pourquoi ? Pour être le... Oui ? Pour être le patron, oui. Une sorte de rivalité pour patronner Athènes. Pas que Athènes, hein. L'Attique, carrément. Hein. Voilà. Athènes, c'est le centre de l'Attique. Hein. Eh bien, effectivement, Poséidon et Athéna sont tombés en rivalité pour devenir les patrons, hein, pour avoir le patronage de l'Attique et donc de la ville d'Athènes. Effectivement, vous avez raison. Zeus a offert, les versions changent, hein. Dans un cas on dit, parce qu'il aurait planté son trident sur l'Acropole, d'ailleurs on montre encore sur l'Acropole hein, les traces du trident de Poséidon. Hein. Il aurait donc planté son trident et de l'eau salée serait sortie, hein. Mais d'autres versions disent qu'il a offert un très beau cheval à la ville d'Athènes, mais Minerve, enfin Athéna, elle a offert un olivier. D'ailleurs l'olivier, son emplacement existe toujours sur l'Acropole d'Athènes. Hein. Si vous allez sur l'Acropole d'Athènes, vous voyez un olivier à l'emplacement où se trouvait l'olivier offert par Athéna, hein, à côté de l'Erechtheion, vous savez, c'est le temple qui est au nord. Hein. Et donc finalement, les Athéniens et Zeus ont plutôt choisi l'olivier, ce qui fait qu'Athéna était très contente, mais que Poséidon n'était pas d'accord du tout, donc ils se sont un peu... Voilà. Hein. Bon. Donc là, on aurait finalement l'épisode de cette rivalité entre Poséidon et Athéna et la victoire qui vient couronner Athéna.
En fait, c'est une assemblée des dieux.
C'est une assemblée des dieux qui valide la victoire d'Athéna. Eh ben non. Il y a un personnage derrière. Il y en a un là. Et il y en a un là.
Avec une hache.
Il y a des combattants derrière.
Combattants derrière. Une hache. Pourquoi faire ?
Qu'est-ce qu'on va taper avec
une hache ? C'est pas encore de la guerre de Troie, par exemple.
Non.
Non, c'est pas pour ouvrir le cheval.
Qu'est-ce qu'on coupe avec
la... Qu'est-ce qu'on coupe ?
Du bois.
Du bois ? On coupe des têtes. Ça, c'est un peu franchouillard.
Ça, c'est pas dans la guerre de...
Pas trop.
Non, la hache est bizarre.
Qu'est-ce que peut évoquer cette hache ? On en a parlé la dernière fois. Eh oui.
C'est la prime d'un lieu ?
La prime. Vous disiez ?
La tribu.
La tribu, pardon. La tribu d'un dieu. Oui.
Non, c'est pas.
Disons que c'est quand même quelque chose. Ce personnage qui a tenu une hache, c'est un dieu. C'est normal qu'il tienne une hache, mais c'est pas son attribut unique, mais c'est un attribut qui lui correspond bien, oui, quelque part.
C'est pas
Hephaïstos.
C'est pas la naissance d'Athéna quand elle forme le crâne de fond.
Et ben voilà. Un jour, Zeus avait très mal à la tête, n'est-ce pas ? Il a demandé à Héphaïstos de venir. Héphaïstos, avec sa hache, car c'est un de ses attributs, hein, a ouvert le crâne de Zeus et Athéna est sortie toute armée, n'est-ce pas, du crâne de son père. Et bien, vous la voyez là. Et alors, elle est sortie grandeur nature. Hein. Je ne me demandais pas comment ça s'est fait. Moi, je ne suis pas un dieu, je sais que je ne connais pas. Voilà. Donc, vous voyez là Zeus qui vient d'accoucher, en fait, hein, vient d'accoucher. Il vient d'accoucher d'Athéna. Héphaïstos, il a fait son boulot. Et ma foi, Poséidon comme Héra, il y a même derrière Iris, qui est la messagère des dieux, qui va sûrement dire au monde entier que Athéna vient de naître. Voilà. Donc, si vous voulez, du côté est, là où on entre, il y avait donc ce fronton, voilà, la naissance d'Athéna. D'accord ? Alors, je vous montre quand même d'un peu plus près hein, ce qui reste de ça. Là, du côté gauche, vous avez Hélios. Hélios, il est là, on ne voit plus sa tête. Hein. Hélios, c'est le dieu du soleil. Hein. Quelquefois, c'est un peu une sorte d'Apollon bis. Il s'élève. Hein. Voilà. Là, à côté, vous avez Dionysos. Ah, c'est cool, lui aussi. Vous voyez que les dieux sur le Parthénon, on l'a vu dans la frise, hein. Ce n'est pas des dieux, hein. C'est des dieux sympas. Quoi. Enfin, d'ailleurs, là, vous avez Déméter et Corée, hein. Et puis Iris également. Hein. Bien. Donc, voilà ce qui reste de la partie gauche du fronton. De la partie droite, il reste l'étau. Hein. Il reste Dionée, qui est dans certaines versions la mère d'Aphrodite et Aphrodite, et le cheval de Sélénée. Sélénée, c'est la lune. On a vu le soleil tout à l'heure. Là, c'est la lune qui se couche. Donc, c'est un autre quadrige qui se descend. Hein. Voilà. Donc, voilà ce qui reste de ce fantôme-là. Mais il y a le fantôme ouest. Alors, fantôme ouest, notre cher Jacques Carret a eu la bonne idée aussi de le dessiner. Voilà la partie gauche du fronton, voilà la partie droite du fronton. Et de la même manière, puisque ces dessins sont très intéressants, mais quand même, voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Voilà la reconstitution de la... Voilà la reconstitution du fronton en question. Voilà les deux dessins de Carret. Aujourd'hui, de ce fronton ouest qui a été très abîmé, il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus que les éléments, vous voyez là, qui sont tous aujourd'hui au British Museum. Hein,
voilà. C'est l'histoire Poséidon...
Oui, là, c'est sûr.
Alors là, ça va. C'est ce que vous avez vu dit tout à l'heure. Simplement, vous êtes allé un peu vite en besogne. Hein. C'est-à-dire que là, c'est effectivement la dispute entre Poséidon et Athéna. Là, il se frite un peu. Hein. On le voit. Hein. Voilà. Et on voit que d'un côté, il y a le quadrige d'Athéna qui est retenu par une divinité. Et là, une deuxième, sans doute retenue par Amphitrite, d'ailleurs. Bref, là, c'est la dispute pour la prééminence de la ville. Hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi une reconstitution, mais enfin, qui est assez juste. Aujourd'hui, donc, voilà ce qui reste. Je vous montre très vite, parce qu'il faut les connaître, hein, les photos de ces œuvres, ça, c'est le Képhis. Le Képhis est un des fleuves qui passe à Athènes. Hein. Donc, vous voyez, c'est la représentation, en fait, d'un fleuve sous la forme d'un homme. Hein. Voilà. Le Képhis est toujours ce que l'on a dit, hein, l'exaltation du corps, hein, le contraste entre les musculatures, enfin, la musculature et le drapé. Alors, tout ça a été évidemment très abîmé, mais vous avez là quand même les grands chefs-d'œuvre de la sculpture grecque du 5e siècle. Hein.
Dont le Bernas est inspiré.
Bien sûr, absolument. Voilà, une figuration d'Hermès, tout ça, et vous le voyez, très abîmé. Athéna, il ne reste plus que ça, un morceau du buste et de l'Égide. Poséidon, il n'y a plus qu'un morceau du buste et pas très en forme. Voilà Iris. Alors, Iris, qui est à droite du fronton, le corps est à Londres, mais la tête est au Louvre. En fait, on a de la chance au Louvre. Hein. On a un métope, on a un morceau de la frise, on a la tête d'Iris. On a un morceau de tout. Hein. Voilà Amphitrite et voilà Oryctie. Il reste vraiment plus grand-chose. C'est magnifique, mais c'est très abîmé. Et puis pour terminer, il nous reste une chose quand même. La statue de culte. Hein. La statue de culte, c'est ça. C'est ça. C'est quoi ça?
C'est Athéna.
C'est Athéna. Hein. Donc c'est Athéna. Ah, elle combat là?
Alors elle est niquée.
Elle est niquée. Alors elle est niquée parce qu'elle tient une niquée. Hein. Elle tient une victoire, effectivement. Hein. Mais, puisqu'elle est dans le Parthénon, c'est Athéna, Parthénos. C'est Athéna, Parthénos, c'est l'Athéna du Parthénon. Quoi. Donc ça, c'est la statue de culte. C'est la représentation de la statue de culte. Parce que la statue de culte, vous le disiez, elle n'existe plus. Hein. À votre avis, vous avez une petite idée à propos de la taille que faisait la statue de culte?
15 mètres.
Pardon?
15-18 mètres.
Oui, quelque chose dans ce goût-là. Hein. Elle était faite en quoi?
En bois.
Non, alors, bois. L'intérieur était en bois, la structure était en bois, c'était même des cèdres du Liban. Hein. Absolument, l'intérieur était en bois, et l'extérieur, ivoire et or. Et vous savez comment est-ce qu'on appelle ça?
Crise
éléphantine. Hein, c'est-à-dire en ivoire et en or. Hein. Donc ça, ce que je vous montre là, c'est quoi?
Une copie romaine.
Voilà, une copie romaine d'après l'original. L'original n'existe plus, on n'a plus que la copie. Vous reconnaissez cette litanie dont on parle depuis le départ, hein, hein. Décidément, c'est toujours ça. Hein. On sait par exemple que la statue de Nike, dans la réalité, mesurait presque 2 mètres de haut, 1 m 80. Hein. C'est absolument énorme. Hein. Et elle porte un bouclier. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur le bouclier? Voilà, alors ça, c'est la représentation d'un autre bouclier, parce que cette statue d'Athéna Parthénos, on en connaît toute une série de copies. Je vous ai montré la meilleure, mais on a également fois des copies du seul bouclier. Qu'est-ce qu'on voyait sur le bouclier?
La tête
de Méduse. Alors, la tête de Méduse au centre, l'Égide, effectivement. Hein. On a parlé de la tête de Méduse la dernière fois. Hein. Et tout autour, vous voyez quoi?
Un combat.
Un combat.
Ouais, il y a des guerriers.
Des guerriers. Casques,
il y a des morceaux.
Alors, on voit des guerriers, hein. Là, voilà, là, Et puis là,
une femme.
Autrement dit, c'est un combat de guerriers contre qui ?
Des Amazones.
Toujours ça. C'est-à-dire, c'est toujours cette idée. C'est ce qu'on appelle une amazonomachie. Hein. Vous avez dit le terme tout à l'heure, c'est combat contre les centaures. C'est les centauromachies. Contre les Amazones, les amazonomachies. Contre les géants, les gigantomachies. C'est un peu les prototypes pour montrer la hauteur et la présence de la culture grecque, celle des gens civilisés contre les barbares. C'est une amazonomachie. Sachez qu'à l'intérieur du bouclier, il y avait peint cette fois une gigantomachie. Vraiment, on martèle toujours cette idée-là. Voilà. Hein, donc, ce que vous avez là, c'est effectivement une copie romaine, d'après l'original de Phidias. On a vu tout à l'heure que c'était lui. Voilà en gros ce que ça donnait. Hein. C'était sans doute un peu spécial. Vous savez qu'à Nashville, aux États-Unis, les Américains font rien comme tout le monde. Hein. À Nashville, aux États-Unis, on a reconstruit à la fin du 19e une copie du Parthénon, avec à l'intérieur une copie de l'Athéna Parthénos. Hein. Alors, dans le détail, il y a quand même quelques petits trucs pas tout à fait, mais enfin, ça donne au moins une idée des proportions de ce à quoi ça ressemblait. C'est un petit peu spécial. Hein. On n'est pas obligé d'adorer. Bon, c'est un petit peu Disneyland. Donc, si on résume, avant de s'arrêter, puisqu'on va s'arrêter maintenant, donc ici, on a la statue d'Athénos. On a là un fronton qui évoque
la naissance.
La naissance, elle est là ?
Non,
de l'autre côté.
Elle est là, la naissance. Là, il y a la naissance, et là, il y a
le combat.
Hein. Quand on arrivait, c'est le combat qu'on voyait. Hein. La frise qui représente la procession de quoi ? Des Panathénées. Et puis, quant au métope, au sud.
Les
centaures et les lapides. Ici. Les Amazones. Là. La guerre de Troie. Et là, à l'entrée. Non. Le combat entre les dieux et les géants. La gigantomachie. Bravo! Et puisque maintenant vous avez votre Parthénon sur le bout du doigt, une dernière question, il n'y en a qu'une, n'ayez crainte. C'est quoi ça? Vous savez? Vous le savez. Parfait. Et bien on s'arrête là. Ah, vous avez eu la dernière.